Cultura en tus ondas.
Partez à la découverte de la culture des pays hispanophones avec les élèves de la section espagnole Bachibac du lycée Kiné.
Cultura en tus ondas.
Buenos días a todos y bienvenidos en la chronique de la section Bachibac du lycée Edgar Quinet. C'est une section binationale française et espagnole qui va nous permettre d'avoir le bac français et espagnol.
Nous sommes Eliane et Lorraine et aujourd'hui nous allons parler de Francisco de Goya et plus précisément de l'une de ses œuvres, El 13 de Mayo de 1808.
On peut voir ce tableau au musée du Prado à Madrid. Nous avons eu la chance de le visiter l'année dernière lors d'un échange linguistique avec notre lycée.
Nous avons trouvé ce tableau magnifique et bien plus grand que ce qu'on avait imaginé en l'étudiant en classe.
Radio B, 90 FM.
Francisco de Goya est né le 30 mars 1746 près de Saragosse, la capitale de la région d'Aragon, au nord-est de l'Espagne. Il est mort le 16 avril 1828 à Bordeaux en France.
Il a été le peintre officiel de la cour royale d'Espagne pour les rois Charles III et Charles IV. La vie de Goya n'a pas été facile.
En 1793, il tombe gravement malade, ce qui le rend taciturne et accentue sa colère et ses dégoûts pour le monde qui l'entoure. Ses œuvres se font alors plus créatives, expressives et originales pour son époque.
Son travail, qui est appelé « art goyesque », et son évolution est considéré comme précurseur de ce qui deviendra plus tard l'impressionnisme. L'impressionnisme est un mouvement pictural né de l'association d'artistes de la seconde moitié du XIXe siècle vivant en France.
Francisco de Goya peint en 1814 deux tableaux appelés 2 mai 1808 et 3 mai 1808. C'est en souvenir de la révolte des habitants de Madrid contre les troupes françaises de Napoléon le 2 mai 1808 et de la répression qui s'abat sur les Espagnols le lendemain.
Par rapport aux autres œuvres de ce même sujet, Goya ne met pas ici en avant les caractéristiques nationalistes de chaque camp. Il transforme la toile en une critique générale de la guerre. Le lieu est à peine suggéré par les bâtiments en fond qui peuvent faire penser à l'architecture de Madrid.
Ces deux tableaux sont tous les deux exposés dans la même salle du musée du Prado, côte à côte. Le tableau du 3 mai 1808, qui est celui qui nous intéresse plus particulièrement, il mesure environ 2,70 m par 3,50 m. Il représente l'exécution d'une quarantaine de patriotes espagnols fusillés par les soldats français à Madrid le 3 mai 1808 pendant la nuit.
Sur ce tableau, on voit des Espagnols fusillés en représailles d'une révolte qui a eu lieu la veille. Au premier plan à droite, les soldats français sont représentés alignés en bloc figé et dans une attitude très explicite. Ils visent les civils espagnols avec leurs armes. Ces soldats sont représentés de dos et quand on regarde la scène de ces visages invisibles et de ces corps anonymes, on ne peut les voir comme des êtres humains, mais plutôt comme des machines à tuer. Goya représente dans cette œuvre la brutalité de la guerre et ici l'obéissance aveugle de l'armée française.
Au premier plan à droite sont représentés les prisonniers espagnols. Certains sont au sol et baignent dans leur sang, d'autres assistent au massacre et leurs visages expressifs disent la terreur qu'ils ressentent parce qu'ils savent, tout comme nous le savons, aussi en regardant le tableau, qu'ils vont mourir dans les instants qui suivent cette représentation.
Ils ont tous une attitude différente, certains se cachent le visage, d'autres prient. La grande variété des postures donne du mouvement au tableau et rend les personnages très vivants et très expressifs. On a l'impression d'assister à une scène et d'être aussi impuissant qu'eux, ce qui suscite de l'émotion chez le spectateur.
Un des Espagnols est plus visible que les autres parce qu'il est illuminé par la lumière d'une grosse lanterne. La blancheur de sa chemise éclaire le tableau, il a les bras en croix et fait face à ses bourreaux.
On peut voir toute une série de symboles dans cet homme qui a la posture d'un martyr à l'image du Christ crucifié. Ce personnage semble prêt à offrir sa vie au service de la justice et à symboliser la résistance, l'innocence et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Vous écoutez Radio B.
Monsieur Philibert, professeur d'histoire-géographie au collège Thomas Riboud et qui travaille aux archives départementales de l'Ain comme professeur relais patrimoine, histoire et mémoire, a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions concernant ce tableau.
Dans quel contexte historique cette œuvre a-t-elle été créée ?
Cette œuvre représente l'exécution de 43 patriotes espagnols fusillés par des soldats français à Madrid dans la nuit du 3 mai 1808. Goya a été témoin de la férocité absurde de la guerre et de ses atrocités qui opposent français et espagnols pendant 6 ans. En 1814, il retient cet épisode tragique pour symboliser la glorieuse révolution espagnole. Mais comment en est-on arrivé là ? Pendant la révolution, la France devient un modèle pour beaucoup de peuples opprimés en Europe. Elle y diffuse des idées révolutionnaires comme la liberté, l'égalité et la souveraineté du peuple. Mais à partir de 1795, la France mène des guerres de conquête. Avec Napoléon au pouvoir, ces guerres vont s'amplifier et presque toute l'Europe passe sous domination française. Les régions conquises sont soit intégrées dans l'Empire français, soit dirigées par des membres de la famille de Bonaparte, et c'est le cas en Espagne.
Pourquoi Napoléon s'intéresse-t-il à l'Espagne ?
Tout simplement parce que l'Espagne contrôle l'accès à la Méditerranée. Napoléon en fait un enjeu stratégique. Il manipule le roi d'Espagne, Ferdinand VII, pour le convaincre de conquérir le Portugal, alors qu'il veut tout simplement le renverser. En novembre 1807, sous prétexte de renforcer les armées espagnoles, 23 000 soldats français entrent en Espagne. Ils sont d'abord accueillis presque partout en libérateurs. Mais en mars 1808, Ferdinand est forcé à abdiquer et il est remplacé par Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon. Dès lors, les Espagnols rejettent profondément les dirigeants français et les troupes de Napoléon sont perçues comme des envahisseurs qui occupent l'Espagne.
Comment la guerre d'indépendance espagnole débute-t-elle ?
Alors elle commence par une insurrection. Le 2 mai 1808, une révolte éclate à Madrid. Elle est très sévèrement réprimée par l'armée française et ses soldats turcs qu'on appelle les Mamelouks. Le jour suivant, le 3 mai 1808, des centaines de madrilènes sont arrêtés, rassemblés et exécutés par les Français. C'est le début d'une guerre d'indépendance très longue, cruelle, contre la France, qui se terminera seulement en 1814.
Quel est le rôle de la lumière et des couleurs pour transmettre des sentiments aux spectateurs ?
Quand on observe le tableau, on se rend compte tout de suite que la partie gauche au premier plan est bien plus lumineuse sur la toile. Goya utilise en effet une palette de couleurs chaudes, le brun, le blanc, le rouge, le jaune. La partie de droite, elle, est plus terne, avec des tons plus bleutés qui sont utilisés. Cela oppose tout de suite, visuellement, le camp espagnol et le camp français. À l'arrière-plan, les teintes et les couleurs sont sombres, notamment sur l'église, c'est le crépuscule, la nuit tombe. C'est tout un symbole. Pour Goya, l'Espagne, ses coutumes, sa religion sont plongées dans le noir à cause de la domination française. Dans le tableau, on voit qu'il y a une seule source de lumière, la lanterne centrale. Dans la nuit espagnole, c'est elle qui apporte la lumière. Mais étrangement, elle n'éclaire, on le voit bien, que les insurgés, alors que normalement, elle devrait éclairer à 360 degrés autour d'elle. C'est sans doute un choix pour Goya. Cette lumière, ça peut être une lumière sacrée qui illumine les martyrs de l'indépendance espagnole et qui, au contraire, laisse les tueurs, les Français, dans l'ombre.
Comment la composition du tableau est-elle utilisée pour faire passer des émotions ?
Si on analyse le tableau, l'élément qui se détache le plus, c'est évidemment le personnage central qui va se faire fusiller. Il est vêtu d'habits blancs et jaunes, alors que le reste du tableau est beaucoup plus sombre. Qu'est-ce qu'il peut représenter ? Sa position rappelle clairement le Christ sur la croix. Le trou dans la main du personnage rappelle aussi les stigmates, le clou de la croix. Goya en fait ici un martyr, comme Jésus, une figure de souffrance. C'est l'innocence sacrifiée. Autour de lui, il y a d'autres Espagnols. Ceux à terre ont déjà été tués. Le spectateur peut réagir, notamment en observant la présence du sang, un rouge très tranché sur la toile. Les autres se cachent le visage pour ne pas voir l'horreur. Goya ne veut pas faire quelque chose de beau, il ne veut pas faire forcément un joli tableau. Il cherche plutôt à exprimer la souffrance, la tristesse, la révolte. En fait, il n'a pas le souci du détail. Les personnages se ressemblent un peu tous d'ailleurs. On le constate en observant le bloc formé par les soldats français. Les soldats sont peints avec des couleurs grises, bleues, assez froides. Ils tirent sur les insurgés. La ligne horizontale de leurs fusils attire le regard du spectateur vers les victimes. Ils sont tous représentés de dos, ces soldats, ils sont tous semblables. On ne voit pas leur visage, et Goya représente ainsi peut-être des monstres sans visage, des brutes inhumaines, des outils de mort, et puis, on peut le dire aussi, des lâches. Avec ce tableau, Goya cherche à faire passer des émotions fortes. D'un côté, la tristesse, la pitié pour les insurgés espagnols, représentés comme des martyrs, des innocents, des sacrifiés, bref, des saints. De l'autre côté, c'est la colère, la révolte contre la brutalité de l'armée française qui assassine ici la liberté.
En quoi cette œuvre est-elle liée au romantisme ? Quelle est la postérité de ce tableau ?
Ce tableau est aussi une œuvre majeure du romantisme, sans doute la première. Goya, c'est un précurseur. C'est un des premiers peintres du romantisme. Le romantisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un courant artistique, culturel, du XIXe siècle, qui cherche pas forcément à faire joli en suivant des codes classiques, des règles. mais qui cherche plutôt à faire ressentir des émotions, des sentiments forts à travers soit des paysages, des portraits, des scènes religieuses, des scènes mythologiques ou bien même des scènes historiques. Dans l'histoire de l'art, ce tableau, il a fait date et il ne laisse personne indifférent. Il est aujourd'hui conservé au musée du Prado, c'est une œuvre qui appartient au patrimoine national espagnol, mais c'est aussi une œuvre qui a laissé une certaine postérité. Par exemple, au XIXe siècle, Manet, dans son tableau « L'exécution de Maximilien » en 1869, reprend la structure du tableau de Goya. Et plus proche de nous, c'est Picasso, dans son tableau intitulé « La guerre en Corée » en 1951, qui va reprendre lui aussi la structure du tableau, sauf que cette fois-ci, ce sont des soldats américains qui tirent sur les Coréens.
Un grand merci à M. Philibert, professeur d'histoire-géographie au collège Thomas Ribou et qui travaille aux archives départementales de l'Ain comme professeur relais patrimoine, histoire et mémoire pour ses précisions.
Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés.
Retrouvez le podcast de notre chronique en libre accès sur le site radiob.fr. Si notre sujet vous a intéressé, vous pouvez jeter un coup d'œil sur les œuvres qu'on a citées.
C'était Eliane et Lorraine. Adios y buen día con Radio B.
Cultura en tus ondas.
Partez à la découverte de la culture des pays hispanophones avec les élèves de la section espagnole Bachibac du lycée Quinet.
Cultura en tus ondas.